Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être totalement centrée sur le mieux vivre au sens large, mais aussi sur votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Julia, quel est notre programme ?
Eh bien Mélanie, ce matin on va démarrer l'émission par cette question, peut-on ne plus subir les crises de nos enfants ? Vous savez Mélanie, je parle de ces moments gênants en public, parfois la crise en plein supermarché ou même à la maison, la colère sans fin pour ne pas aller au bain, pour ne pas ranger sa chambre. Enfin bref, tous ces moments qui peuvent nous faire péter un peu les plombs, nous aussi les parents. Eh bien, on va en finir avec tout ça grâce aux bons conseils de notre invitée. Nous recevrons Valérie Roumanoff. Elle est hypnothérapeute et psychopraticienne spécialisée en parentalité.
Ensuite, à 11h35, on passera à notre dossier santé du jour. À la veille de la journée mondiale de la vue, on va faire un focus tous ensemble sur l'un des troubles de la vision les plus fréquents, la myopie. Et on s'arrêtera surtout sur les interventions possibles aujourd'hui pour réparer définitivement ou non ce problème visuel. Pour en parler, l'un des meilleurs spécialistes dans ce domaine sera avec nous, c'est le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild.
Ensuite, dès midi, il y aura la séquence tendance de ce magazine. Chaque jour, dans cette partie, on vous partage nos bons plans, nos astuces et on parle de gastronomie, bien sûr. Et ce midi, c'est le chef Grégory Quiron qui va se charger de nous régaler. Il va nous donner ses meilleurs conseils pour réussir enfin les œufs en meurette. Et vous savez quoi ? On a beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir avec nous parce que Grégory a été sacré ce dimanche. Champion du monde de l'œuf en meurette. C'est pas nous que ça arriverait, Mélanie. Hein. C'est quand même la classe. Ensuite, elle n'est pas championne du monde, enfin pas que je sache, mais elle est notre experte mode. C'est Sophie Braffman. Aujourd'hui, elle va nous décrypter la mode, mais en politique. Alors ça promet. Et ce sera sans langue de bois, je vous l'annonce.
Et enfin, pour finir ce tour de table des tendances, notre Madame Livre, Nathalie Le Breton, sera également à nos côtés. Elle va nous conseiller quelques bouquins pour nos enfants, ceux qu'il faut absolument se procurer pour les aider à vaincre leurs peurs.
Europe 1.
Bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 bien sûr, et donc ce matin dans votre magazine Bien-être, on va tenter de répondre à une question que tous les parents se posent. Peut-on en finir avec les crises de nos enfants ? Je suis sûre que ça vous parle Mélanie.
Oui, c'est plus petit chez moi que chez vous, hein, Julia. Oui. Je suis encore là-dedans même avec ma fille de 4 ans, donc j'ai hâte d'avoir les conseils de notre invité. Mais avant cela, lui, il les adore les enfants, il leur donne souvent la parole, peut-être parce qu'il n'en a pas, je pense.
Exactement, je
c'est
ne
Clément,
subis pas les crises. Lanoux.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, effectivement, bonjour. Je vais tenter de répondre un petit peu avant vous. De manière beaucoup moins sérieuse, évidemment, à cette question, comment gérer les crises de ses enfants ? Alors, il faut savoir que j'ai déjà répertorié les crises des enfants. J'en ai trouvé plus d'une cinquantaine, donc je vous propose non pas le top 50, mais le top 3 des crises les plus courantes. Numéro 3, on a évidemment l'enfant qui veut absolument du sucre.
Mais maman, je veux des bonbons, pas de ta compote au goûter. Je veux des bonbons, du sucre.
Alors, normalement, on l'a tous déjà entendu, celle-ci, quand on a des enfants. Numéro 2, alors pas loin, mais numéro 2, celui qui tient vraiment à avoir une propre organisation bien à lui.
Non, mais maman, je veux pas ranger ma chambre, c'est ma chambre. Si c'est le bazar, c'est le bazar.
Voilà. Ce fameux bazar organisé. Non mais maman, quand c'est rangé, je retrouve rien.
Oui,
papa,
bah oui.
Mais je veux pas ça, je veux ça. Et puis, numéro 1, je sais que tous les parents qui nous écoutent vont se dire « Oh oui, je l'ai déjà entendu. » Évidemment, c'est quand il s'agit de se nourrir.
Non, je veux pas des légumes, ça pue. C'est pas bon, moi je veux des pâtes au fromage, pas de tes trucs.
Quand on a les trois, on est vraiment dans la mouise.
Non, vous êtes justement, à mon avis, dans la norme. Il y a des solutions, on va en parler dans un instant. Juste avant, j'ai demandé quand même aux parents, est-ce que vous avez des techniques justement pour ne plus subir ces crises ? Il y a des bonnes idées.
Si on est dans un lieu public, je me cache pas, je l'ai dit, je suis fâchée, on en va en reparler à la maison. Donc je recadre immédiatement, mais en disant, voilà, on en reparle plus tard. Je me mets toujours à la hauteur de ses yeux pour qu'il puisse voir... Déjà dans mon regard que je suis sérieuse, mais aussi que moi j'arrive à comprendre en fait à ce moment-là ce qui se passe et que j'entende s'il me chuchote quelque chose.
Bah l'avantage avec un enfant c'est que c'est facile de le détourner de son attention. Par exemple la dernière fois j'étais à la caisse du supermarché et ma fille voulait absolument un bonbon. Du coup je lui ai juste demandé de m'aider à mettre les courses sur le tapis et du coup elle a oublié les bonbons.
Moi ce que j'ai fait c'est acheter le livre de la colère et quand ma fille fait des crises bah on... prends ce livre et on discute pourquoi elle est en colère.
Ah, j'ai cru qu'elle l'assommait avec.
Non. Alors justement, ça c'était les premiers parents. Vous savez, ceux qui arrivent en avance à la sortie de l'école, en avance le matin, ceux qui font les fournitures
les bons,
au mois de juin. Les bons. Et puis après, il y a 95% des parents, il y a les autres.
Mon club.
Oula, bah sans rien faire.
Tu le regardais, t'attends que ça passe. Et puis, il y a un moment où il va s'arrêter.
Oh, moi, en vrai, je cède aux caprices. Comme ça, il arrête de pleurer et on est tranquille. Oh,
je lui envoie son père. Comme ça, ils se débrouillent entre eux. Et moi, je suis tranquille en train de fumer ma clope.
Voilà.
Le donc, faible, quoi. Voilà, on en fait beaucoup. On en est nombreux à en faire partie.
Il
quand
existe
même
des solutions et je crois qu'on ouais va les donner dans cette émission.
Wow, merci. Merci, Clément.
Avec plaisir.
Bon, vous n'avez pas d'enfant, mais vous en parlez très, très bien.
C'est peut-être pour ça, justement.
On les étudie avant de se décider.
Je reste loin de cette espèce si bizarre.
Alors, on vous retrouve demain avec un autre sujet, d'autres témoignages qui nous font toujours sourire, mais qui nous éclairent à chaque fois. Je suis certaine que notre invité qui est déjà en studio avec nous sera d'accord. Bonjour Valérie Romanoff.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et psychopraticienne spécialisée en parentalité. Vous êtes également l'autrice du livre « Il pique des crises, apaiser les colères de votre enfant avec l'hypnose ». C'est paru aux éditions Larousse. Valérie, mais pourquoi les enfants font des crises? Parce que je crois qu'il faut déjà faire la part des choses. Il y a différents types de crises.
Il a fait un classement, le Clément Lanoux.
Oui, ça a été tout à fait bien décrit, c'est exactement merci ça. Bah, c'est ces crises de colère, ces crises de nerfs. Voilà, le livre parle vraiment de ça, quand le cerveau déborde, que les émotions renversent tout sur leur passage et qu'on ne sait pas très bien comment réagir.
Moi, je les ai trouvés très soft, les enfants, dans votre...
C'est parce que j'ai fait un trait quand nous sommes sur Europe 1.
On
est d'accord que quand on parle de crise et de colère, on parle aussi de hurlements.
Exactement.
Il y a des enfants, on dirait des petits exorcistes.
Ah, oui. C'est ça, c'est se rouler par terre, c'est taper, c'est mordre, c'est jeter tout à la renverse, exactement. Des crises, c'est vraiment, c'est impressionnant.
Mais j'allais pas leur faire mal juste pour les besoins. Je précise que je leur ai pas demandé de me rejouer une phrase.
Les caprices, par exemple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une crise, un gros caprice au supermarché pour des bonbons, par exemple? Ça, c'est un grand classique. C'est ce qu'on appelle une crise.
Alors oui. Alors le fait d'appeler ça un caprice, ça nous éloigne en fait de la solution. Déjà, le fait de dire c'est un caprice, on se coupe en fait de l'enfant en lui disant voilà, toi ce que tu fais c'est pas bien, et moi je vais t'expliquer ce qu'il faut faire, c'est mieux. Et déjà, on coupe la communication directe entre les deux et ça ne nous facilite pas la tâche en fait d'appeler ça un caprice.
Clément ?
J'ai une question peut-être très idiote, mais est-ce que tous les enfants le font ou est-ce qu'il y a des enfants propices ou des situations propices à plus de caprices ?
Il y a des situations propices et en fait les crises se font toujours au même moment et quand on connaît bien nos enfants, on sait que ça se passe toujours au même moment, dans les mêmes circonstances, exactement comme ça. Après, tous les enfants le font parce qu'en fait, c'est une question de maturation du cerveau. Le cerveau des enfants n'est pas mature, on le sait maintenant. Oui. C'est à 25 ans seulement que ça arrive.
Moi, je les laisse maturer à la maison, je les amène plus au supermarché, comme ça au moins c'est
donc
réglé.
C'est normal. C'est tout le monde, voilà. C'est pour tout le monde,
c'est pour tout le monde, mais il y en a quand même des plus coriaces que d'autres.
Il y en a qui sont plus violents, il y en a où c'est plus souvent, et c'est pour ça qu'on...
On dirait qu'on parle d'animaux, là.
On peut faire quelque chose pour justement réduire l'intensité, réduire la fréquence, et pouvoir avoir un quotidien un peu plus agréable.
Alors Valérie, pourquoi quand un enfant pique une crise, il dit souvent « c'est pas juste ». Pourquoi cette formulation
hier soir, c'est pas juste, maman, de prendre le bain tous les jours.
C'est ça, parce que la colère, elle est provoquée toujours par les mêmes émotions, en fait. C'est un sentiment d'injustice, c'est un sentiment de frustration, ou c'est un sentiment d'impuissance. Et les enfants, ils sont très souvent dans ces sensations-là, parce qu'en fait, en tant qu'enfant, on ne décide de rien. Ils ne décident pas à quelle heure ils se lèvent, ils ne décident pas ce qu'ils font de leur journée, ils ne décident pas comment ils s'habillent, ils ne décident pas de ce qu'ils mangent, ils décident en fait absolument de rien. Et on leur impose en plus d'autres choses, et on voudrait qu'ils nous obéissent, on trouverait ça normal. Mais à un moment donné, ça suffit. C'est pas juste en fait de leur imposer tout ça. À quel moment ils décident de quelque chose dans leur vie?
Essayer de se mettre à leur place, effectivement, de voir que si on nous imposait tout comme ça, peut-être on piquerait des crises nous aussi.
Complètement. Si on nous disait mange ça, lève-toi à telle heure, habite-toi de telle façon, à un moment, ça suffit quoi. On a envie de pouvoir décider de quelque chose dans notre vie.
Mais pourquoi ça nous énerve autant? Parce qu'après tout, il y avait la maman là tout à l'heure qui disait bon ben moi je la laisse faire sa crise et puis ça passe à bout d'un moment. Mais pourquoi ça nous met en boule comme ça? Moi j'ai la boule au ventre parfois quand je l'entends hurler comme ça.
C'est complètement normal parce que on est les seules personnes qui sont insensibles aux émotions des autres, c'est des psychopathes.
Ah bon, ça va. Je suis pas psychopathe.
Vous n'êtes pas psychopathe, tout va bien. Vous êtes humaine et heureusement, on a des émotions. Et quand on a en face de nous des gens qui ont des émotions, qu'en plus c'est nos enfants et qu'on les aime, forcément ça nous fait quelque chose. Bien sûr. Puis en tant que parent, on s'inquiète, on se dit peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc il y a la culpabilité qui arrive, il y a l'inquiétude, on se dit si je laisse faire ça, qu'est-ce qui va devenir plus tard? Ça va être un délinquant. Voilà, donc il y a tout ça qui arrive et puis cette espèce de sentiment d'impuissance, de mais je sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Et tout ça, ça fait des émotions qui font que nous-mêmes, on s'énerve, on s'agace, on crie, et le cri sur le cri, ça fait qu'une crise, elle dure encore plus longtemps.
Très bien. Valérie Romanoff, vous restez avec nous. On n'est qu'au début de cet entretien. On va voir ensemble, juste après, comment, en pratique, on les calme. On se calme, nous aussi, d'ailleurs, face à une grosse colère du petit dernier, ou même d'un grand, d'ailleurs, pourquoi pas. On expliquera notamment comment, grâce à l'hypnose, on peut calmer le jeu au quotidien. On calme les enfants pénibles et on apaise les parents épuisés aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques.
C'est Renan Luce, évidemment. Lui aussi, il connaît les crises des enfants, je pense. De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, Feel Good, ici. On essaye tout simplement de vous rendre la vie plus facile tous les jours et ce matin, surtout si vous avez des enfants. Vous connaissez peut-être les colères. Eh bien, justement, on va essayer d'en finir avec les colères, les crises de nos progénitures. On y répond très concrètement avec Valérie Roumanoff, notre invitée. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et psychopraticienne spécialisée en parentalité. Vous êtes également l'autrice du livre Il pique des crises, apaiser les colères de votre enfant avec l'hypnose, paru aux éditions Larousse. Alors Valérie, on va rentrer au cœur du sujet. Comment on pratique donc l'hypnose sur nos enfants? Moi, je les vois déjà en mode zombie avec un pendule et je l'amène au bain tout tranquillement. Elle captera rien.
Non, c'est pas ça du tout. En fait, l'hypnose, c'est une science de la communication. C'est une façon de parler, de présenter les choses. C'est des mots, c'est du vocabulaire, c'est des phrases qui vont faire que notre message, il va être entendu. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment énervant en tant que parent, c'est qu'on dit des choses à nos enfants et on a l'impression qu'ils ne comprennent pas et qu'on a beau leur expliquer, leur répéter, et c'est comme si voilà, ils étaient sourds. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir comment leur dire les choses. Et l'hypnose, c'est ça. C'est vraiment, les mots ont du pouvoir. Et donc, utilisons le pouvoir des mots pour pouvoir mieux se faire comprendre et pour pouvoir mieux se faire obéir, en fait, si on peut dire
sinon,
ça.
Je peux vous faire venir chez moi à l'heure du bain. Je suis sûre que ça va aider parce que je ne suis pas sûre encore d'être capable de le faire. Mais vous allez nous donner la méthode.
Elle ne peut pas se démultiplier parce qu'on en a besoin dans tous les foyers. Mais alors, ça veut dire quoi concrètement? On est plus positif dans la façon
par exemple,
de parler
voilà, exactement. Ouais. Parler en positif. Si on dit à un enfant ne gigote pas, en fait, vous savez peut-être ça, le cerveau en fait fonctionne par image et donc quand on lui dit par exemple ne pensez pas à des fraises, et ben vous allez automatiquement fabriquer une image de fraise dans votre cerveau pour comprendre voilà ce que je dis. Alors que j'ai dit n'y pensez pas. Mmh. Donc c'est-à-dire que vous m'écoutez pas, hein, attention, vous obéissez pas, vous êtes pas bien sage. Donc en fait le cerveau marche comme ça. Donc si on passe notre vie à dire à nos enfants ne touche pas, ne gigote pas, ne cours pas, ne va pas là, et donc ça leur met dans la tête des images de gigoter, parler, courir, et ils font et
après,
ce qu'on
ça
leur demande.
Démange. Voilà.
C'est pire que ça, après ils le font et après nous on les engueule. Et eux, c'est injuste pour eux. On vient de leur dire de le faire et après, on leur crie dessus en disant que c'était pas ça qu'on voulait. Alors, c'est quand même pas possible. De quoi piquer une vraie crise de colère.
Il faut dire ne range pas ta chambre, ne mets pas le couvert.
Exactement.
Surtout pas, je m'en vais, que personne ne mette le couvert.
Mais tout à fait, c'est une technique hypnotique.
C'est juste un bon papa, je crois.
Se servir de la négation pour dire l'inverse. Mais on peut aussi faire plus simple et simplement dire les choses en positif en disant reste à côté de moi au lieu de ne cours pas ou calme-toi au lieu de ne pique pas une crise.
Viens faire un câlin.
Oui, on peut dire ça aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de fabriquer des images positives, des images de ce qu'on veut leur dire et non pas de ce qu'on ne veut pas leur dire. Donc ça, c'est la base vraiment de ce langage hypnotique qui fait qu'on va
c'est
dire les choses.
C'est un mode de communication différent.
C'est un mode de communication,
en fait, hein,
exactement.
Clément ?
Et mettre une récompense, est-ce que c'est bien ou pas ? Je sais pas, hein, c'est peut-être bien...
Financière, vous voulez dire ?
Non, pas forcément, mais de alors, se dire, voilà, si tu ranges bien, on va là-bas après, on va faire un tour au parc.
C'est pas ce qui marche le mieux. En fait, l'idée, c'est de motiver en effet l'enfant, mais pas forcément par une récompense.
En pratique, qu'en
fait,
moi, ça marche bien.
Ça ne les intéresse pas tant que ça, ou pas sur le long terme, ou après, ils se lassent. En fait, l'idée, c'est de motiver, c'est tout à fait ça l'idée. Donc, par exemple, motiver pour aller prendre le bain, qu'est-ce qui va les intéresser dans le fait d'aller prendre le bain? Est-ce qu'il va y avoir des paillettes dans le bain? Est-ce qu'on
jouets,
va jouer à quelque chose de rigolo? Est-ce qu'on va y aller à cloche-pied, à reculons? L'idée, c'est de motiver ce déplacement parce que pour eux, c'est extrêmement
aller
compliqué.
Aller au bain à cloche-pied, j'avais jamais
mais
pensé
oui,
à ça.
Mais oui,
que
oui.
Ça devienne un jeu, c'est une bonne idée. Moi, j'avais reçu un conseil à l'époque que je vous transmets. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Valérie. Toujours donner le choix à l'enfant. Et c'est-à-dire que, par exemple, vous avez deux propositions à lui faire qu'il n'a pas envie, mais tant pis, vous lui faites. Par exemple, mon chéri, tu préfères prendre le bain ou ranger ta chambre? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est la technique de l'arnaque.
C'est ce qu'on appelle. Alors, en hypnose, on appelle ça un choix illusoire. C'est qu'on va proposer deux choses, seulement deux. Parce que si c'est trois, ça ne marche pas, parce que c'est trop compliqué à choisir. Et c'est deux choses qui sont deux choses que vous voulez. Donc par exemple, quand il s'habille, tu veux mettre ce pantalon bleu ou ce pantalon rouge, de toute façon, il va mettre un pantalon. Vous ne lui dites pas, tu mets un pantalon ou pas.
Parce que la question, ce n'est pas quel pantalon veux-tu mettre.
Non,
ce
n'est pas ça. C'est de lui donner un choix. Dans l'idée de ça, c'est pourquoi? C'est pour lui redonner du pouvoir. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour qu'il puisse décider de quelque chose, pour qu'il puisse être acteur de sa vie et pas seulement en train de subir tout ce que ses parents, ses professeurs et tout le monde veut qu'il fasse. Donc de lui donner de la liberté en fait. Mais
et
une liberté contrôlée pour que justement ça puisse rentrer dans le cadre de la vie quotidienne. Mais plus on va en donner de cette liberté et plus on va en donner vraiment et plus il va se sentir bien et moins il va se mettre en colère.
Alors Valérie, on va continuer tout de suite bien sûr sur les techniques, pour, notamment grâce à l'hypnose, pour en finir avec les crises de nos enfants. Mais comment on se calme nous parents? Dans votre bouquin, il y a des QR codes, il y a des petites séances justement d'hypnose pour les parents. On va écouter un petit extrait de L'Oiseau Merveilleux.
Et vous pouvez imaginer qu'un oiseau merveilleux se pose tout près de vous. Ses ailes sont magnifiques avec des couleurs qui vous plaisent. Il semble vous inviter au voyage à un voyage empreint de légèreté et de douceur. Et c'est comme si votre conscience...
Donc ça, Valérie, c'est ce que j'aurais dû écouter hier quand elle piquait sa crise au moment du bain. Moi, j'aurais dû m'envoler avec l'oiseau merveilleux,
c'est ça. Avant qu'elle pique la crise, comme ça, vous auriez été tout à fait apte à bien réagir. Parce que
ça
vous
a écouté
été...
avant de les récupérer, oui, peut-être à l'école.
Oui, exactement.
Peut-être pas en voiture, en revanche. En allant les chercher, ça peut endormir en voiture.
Il ne faut absolument pas l'écouter en voiture. C'est marqué vraiment sur ce... Oui, c'est pas du tout en voiture, pas dans une activité qui demande de l'attention, parce que justement, on part, on s'endort. Et ça peut être dangereux à ce moment-là. Mais sinon, à tous les autres moments, quand vous endormez, le matin au réveil, à tous les moments où vous avez besoin de retrouver ce calme, de souffler.
Il y a des séances pour les enfants aussi dans le bouquin.
Il y a des séances pour les enfants, tout à fait, il y en a pour les deux.
Et ça marche très bien. Alors vous dites aussi qu'on doit éviter, on l'a compris, tout rapport de force, les phrases du type « c'est moi qui décide, c'est pas toi qui commande, moi je veux bien », mais comment on fait pour garder une certaine forme d'autorité avec ses enfants ?
Alors en fait, l'idée, c'est pas forcément de chercher l'autorité, c'est de chercher la coopération. Parce que plus on va être en lutte, plus l'enfant va être en lutte. Parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle des neurones miroirs qui font qu'ils vont faire tout ce qu'on fait. Donc plus on va leur dire non, plus ils vont nous dire non, plus on va crier, plus ils vont crier, plus on va lutter, plus ils vont lutter. Donc cette lutte de pouvoir, elle est perdante pour tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher la coopération, de chercher la coopération par l'humour, par le jeu, par plein de choses qui vont faire qu'on va plus avoir besoin d'employer de la force, de se fatiguer à obtenir des choses qui finalement on va pas obtenir. Non, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus cool pour tout le monde et ça va se faire dans une relation de confiance. En fait, les enfants, ils vont savoir que quand on leur dit non, bah, c'est pour les protéger, c'est pas pour les embêter, c'est pas pour les priver de liberté, c'est parce que justement on veut simplement protéger les choses qui sont dangereuses et le reste, bah, en fait, ils peuvent le faire, c'est pas si grave.
Bon, on comprend qu'ils en ont marre un peu de toutes ces contraintes, évidemment, si on se mettait à la place, on le comprendrait aussi à leur place, mais on pense parfois qu'ils font des crises pour nous manipuler, alors que c'est pas forcément le cas non plus. Expliquez-nous, moi je me dis, c'est vrai, parfois, quand il y a une crise comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, ils sont nés pour me vampiriser, quoi.
Exactement, donc vous êtes exactement dans le cœur de ce que je raconte.
Ah oui, je vous ai dit,
livre.
Je suis la cible parfaite pour votre bouquin. Hein.
Parce que c'est l'interprétation qu'on fait de ces crises qui nous empêche d'y réagir de la bonne façon. Si on se dit, cet enfant, il fait cette crise exprès parce qu'il sait que je suis au bout du rouleau et il veut vraiment m'achever complètement, eh bien, on va être encore plus énervé, on va lui en vouloir et on va pas pouvoir réagir de la bonne façon parce qu'en fait, cet enfant qui fait une crise, il a besoin de quelque chose. Il fait ça pas pour nous énerver, mais parce que lui, il a un besoin chez lui qui est pas satisfait. Ça peut être il est fatigué, ça peut être peut-être il a faim. Des fois, c'est des choses très simples. Oui. Et ou alors il a été blessé par quelque chose, ou alors il en peut plus. Il y a énormément de raisons qui font qu'il fait cette crise et c'est jamais pour nous embêter en fait. Et le fait qu'on croit ça, ça nous empêche nous de réagir de la bonne façon. Donc l'hypnose aussi, elle sert à ça, à changer d'interprétation, à changer de regard sur les choses. Et en changeant de regard, on change d'émotion. Et en changeant d'émotion, on change de comportement. Et on peut réagir tout à fait sereinement face à un enfant qui fait une crise parce qu'on se sent plus visé, on se sent plus concerné.
C'est pas personnel en
tout
cas.
C'est pas personnel, ça n'a rien de personnel.
Exactement. Valérie, est-ce que vous pensez pas aussi qu'il faut essayer d'être un peu plus humain avec nos enfants et peut-être, comme eux, ils sont en crise, nous montrer nous aussi un peu plus vulnérables? Est-ce qu'on peut leur montrer que c'est
difficile? Est-ce que je peux mettre à pleurer quand elle pleure?
Est-ce que...
mais oui, tout à fait. Parce que plus on va nous exprimer des émotions de façon, de façon acceptable. Enfin, on va pouvoir parler de nos émotions, on va pouvoir...
Mais un parent, c'est pas censé être fort?
Mais pas du tout, parce que... mais non, un parent, c'est censé être un humain qui est traversé par toutes sortes de choses. Et plus l'enfant va vous voir faire ça, plus il va le faire lui aussi. Et il va vous parler de ce qui le tracasse, et il va vous parler de ses émotions, exactement comme ça.
Clément?
Donc s'il se roule par terre dans le supermarché, on fait pareil à côté pour lui montrer à quel point c'est bizarre,
alors,
ça peut marcher.
C'est aussi une technique d'hypnose qui s'appelle l'externalisation, qui est en fait de montrer à l'enfant de l'extérieur ce que ça fait. Donc dans le supermarché, c'est pas forcément idéal, mais par contre à la maison, il y a un exercice comme dans le livre, qui est un jeu où on inverse les rôles et le parent va faire la crise la plus énorme du monde et l'enfant doit faire le parent. Et donc, à lui de voir comment il réagit.
C'est chouette. Génial.
Et là, vous pouvez regarder s'il est plus malin que vous, s'il se débrouille mieux ou pas. Ah et vous pouvez vous lâcher.
Ah, c'est génial, Mélanie.
Taper des pieds, hurler.
Je vais faire ça, c'est sûr. Eh, Mélanie, faites-moi la fille qui ne veut pas aller au bain.
C'est pas juste.
Si, Mélanie, tu iras au bain.
Et ça soulage tout le monde parce que le parent, il peut enfin lâcher tout cet énervement.
Ça doit être drôle.
Et c'est très drôle. Et les enfants, ils adorent jouer aux parents, expliquer, essayer de nous calmer, etc. Ça les amuse beaucoup.
Mais Clément, vous vouliez faire une petite dernière question?
Non, mais justement, si vous partez à cloche-pied sous la douche, c'est que l'enfant a gagné finalement.
Exactement. C'est ça. Mais oui, mais mettre un peu plus de joie, un peu plus de jeu, un peu plus de rire à la maison, ça fait du bien à tout le monde en fait.
Bon, merci Valérie Roumanoff. On va rester encore un peu ensemble. On a plein de questions pour vous et nos auditeurs également. Je crois que beaucoup de parents sont à l'écoute ce matin. D'ailleurs, je le rappelle, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921 sur notre répondeur.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On essaie ce matin très calmement de répondre à cette question. Peut-on en finir avec les crises de nos enfants et pour nous guider vers une vie familiale plus apaisée?
On l'a adoptée, Valérie Roumanoff.
Elle est notre phare dans la nuit, c'est Valérie Roumanoff. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et psychopraticienne spécialisée en parentalité. Eh bien, ça tombe bien, parce que des parents, il y en a plein qui nous écrivent pour vous poser des questions. On a d'abord Fred sur Twitter, c'est un papa qui nous dit, comment fait-on quand ils sont jaloux du petit frère ou même de la grande sœur? C'est souvent une source de conflit dans la famille. Peut-on pratiquer l'hypnose de groupe quand on a trois petits jaloux à la maison?
Mais oui, bien sûr, cette hypnose qui est donc dans les mots qu'on va employer. Donc la chose vraiment à éliminer le plus possible, c'est la comparaison. Parce que la comparaison, elle est de toute façon là, les enfants vont se comparer naturellement, donc de surtout pas en rajouter. Et surtout, cette comparaison est toujours déloyale parce qu'un enfant plus petit qui se compare à un enfant plus grand, c'est faussé du départ. Donc de toute façon, deux êtres humains sont des personnes tout à fait uniques et spécifiques, les comparer, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment expliquer ça aux enfants et leur expliquer que parfois, le fait d'être juste, c'est pas forcément le fait de donner la même chose à chacun. Donc c'est deux notions différentes et plus on va veiller à ça et moins il y aura cette jalousie qui va en tout cas.
Donc vos techniques d'hypnose en termes de modification de communication, finalement, on peut l'utiliser finalement avec tous ses enfants, qu'on en ait un, deux, huit.
Avec tout le monde, mais même avec pas qu'avec les enfants.
Bon, il y a Sophie également au 3921, notre répondeur, qui demande: mon fils de 8 ans a du mal à décrocher de la télévision. Il faut négocier pendant de longues minutes à chaque fois et si j'éteins brutalement, c'est la crise. Est-ce que vous avez un conseil pour que ça se passe mieux?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les crises, elles ont toujours lieu au même moment. Donc, si à chaque fois qu'on est à la télé, il y a une crise, eh bien, on va anticiper les choses et pouvoir en parler avec lui. Ça dépend de l'âge, après, pour pouvoir établir...
8 ans, elle dit
8
là.
Ans, ouais. Bah, à 8 ans, on peut établir un plan en disant, voilà, t'as le droit à tant de télé ou à tant de temps de télé. Et après, tu vas faire... qu'est-ce que t'aimerais faire après? De prévoir la suite.
Moi, je mets un chronomètre, comme ça sonne et c'est pas moi qui dis, c'est
alors,
fini.
Alors, ça, c'est très bien. Comme ça, ça permet que la colère, elle soit pas dirigée vers vous, mais vers le chronomètre. C'est ça. Déjà, c'est vachement bien. Et ensuite, c'est bien de prévoir la suite. Parce qu'une fois qu'ils s'arrêtent, ils n'ont rien. Et en fait, la nature a horreur du vide. Donc, ils ont besoin d'avoir qu'est-ce qui se passe après.
Et là, vous leur dites, tu vas au bain. Et la deuxième prise.
Donc, le mieux, c'est d'anticiper et que l'enfant sache à l'avance qu'est-ce qui va se passer quand on éteint. Ouais. Et donc, on va pouvoir établir ça et pouvoir justement en parler et pouvoir le prévoir. Et après, ça va devenir une habitude et ça va se passer beaucoup plus facilement. Donc, pas attendre que la crise arrive pour dire, qu'est-ce que je fais maintenant qu'il crie? Voilà, non, je sais qu'il va crier. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il crie pas? Et on peut même leur demander, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que quand t'arrêtes l'écran, tu restes calme.
À l'atelier mosaïque, et hop, on passe dans l'atelier.
Voilà,
à l'autre.
De quoi t'aurais besoin à ce moment-là pour pouvoir rester calme? Est-ce que c'est de jouer avec moi? Est-ce que c'est de faire un tour dans le jardin? Enfin, n'importe quoi. Et lui, il va pouvoir nous donner des idées, en fait. Parce qu'on n'a pas, nous, les solutions, mais eux, les ont.
Mais oui, bien sûr. Natacha également nous a écrit sur notre compte Insta. Elle dit, parfois, ma fille de 3 ans rentre dans des colères énormes pour des détails insignifiants et j'ai un mal fou à la calmer. L'autre jour, c'était parce que j'avais tiré la chasse d'eau des toilettes et qu'elle voulait le faire elle-même. Est-ce que je m'y prends mal?
Pas du tout, on est dans le truc insignifiant.
Mais c'est ça. Donc, on lève un chapitre, ces colères qui nous sont provoquées par rien.
Moi, donc, je lui dirais, ben vas-y, retire-la une fois de plus, la chasse d'eau.
Mais des fois, ça marche pas parce que non, je voulais le faire en premier.
Ah oui, c'est ça.
Donc, en fait, c'est toujours une question de pouvoir. Et l'enfant, il a besoin de s'exprimer et de faire les choses. Et l'enfant petit, il a qu'une envie, c'est de réussir à faire toutes ces choses que les grands font. Donc, en fait, des fois, on essaye de gagner du temps en disant, je vais lasser ses chaussures, je vais tirer la chasse. Et en fait, ça va pas plus vite parce que ça nous fait perdre du temps. Donc, vraiment, l'idée, c'est de ralentir et de laisser l'enfant expérimenter les choses, les faire par lui-même. Et s'il met quelques secondes de plus à trouver le bouton de la chasse d'eau ou c'est le lacet de la chaussure, ça va nous faire gagner du temps pour la suite.
Valérie, est-ce que ça marche, vos techniques d'hypnose pour les adultes, par exemple, pour un mari qui met toujours les chaussettes à côté du panier à linge? Est-ce que je peux l'hypnotiser pour qu'il la mette enfin dans le panier?
Oui, alors c'est pas l'hypnotiser, mais c'est justement dire voilà de quoi t'aurais besoin pour pouvoir réussir à mettre ses chaussettes dans le panier.
Je sais même pas de quoi il a besoin.
Et vous savez pas, vous êtes lissé.
Oui, c'est vrai. Donc on peut faire ça avec un mari aussi.
Il y a aussi cette question, vous en avez parlé tout à l'heure, de l'hypnose sur les adultes. Enfin, et pourquoi pas de l'auto-hypnose? Il paraît qu'on peut s'auto-hypnotiser soi-même pour se calmer, justement. Comment on fait?
Oui, bien sûr, on peut. Donc, les enregistrements qui sont dans le livre, ils sont faits pour ça, en fait. C'est vous passez
c'est de l'auto-hypnose.
Oui, parce que vous le faites tout seul. Après, l'auto-hypnose, bien sûr, ça, une fois qu'on a expérimenté un peu cet état, on peut y retourner très facilement. C'est plus simple que la méditation, en fait, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de vider son esprit ou de se concentrer sur quoi que ce soit. Après, bon, il y a plein de types de méditation, mais l'hypnose, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir un petit moment pour soi, de rester tranquille et de se connecter à toutes les ressources qui sont à l'intérieur de nous et qui vont simplement nous faire du bien et on va repartir après.
Donc on écoute les petits textes qu'on a entendus tout à l'heure.
Voilà, comme ça, tout à fait. On peut les écouter aussi souvent qu'on veut.
C'est facile, il y a juste des flashcodes, on télécharge les séances.
On peut faire quelques minutes par-ci, par-là et on se fait du bien. Et plus on va se faire du bien et plus on va se sentir bien et plus ça va être facile après avec les enfants.
Oh, j'adore. Merci Valérie Romanoff d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs ce matin sur ce sujet très concernant. Pour en savoir plus, je rappelle votre livre « Il pique, des crises, apaiser les colères de votre enfant avec l'hypnose » paru aux éditions Larousse.
Merci beaucoup Valérie pour tous vos conseils qui nous seront plus qu'utiles, c'est certain. Moi je ramène le livre à la maison avec les séances maintenant. Julien, on va parler de toute autre chose. Demain c'est la journée mondiale de la vue et nous on a décidé de parler de la myopie et des opérations qui permettent de la soigner. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
On va donc s'intéresser à la santé de nos yeux à présent. Et pour en parler, j'accueille tout de suite le docteur Damien Gatinel. Bonjour.
Bonjour Julia.
Vous êtes chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. Et avec vous, on va faire le point sur les interventions de la myopie. Mais avant ça, on va expliquer précisément de quoi on parle. Être myope, c'est quoi? En gros, qu'est-ce que ça veut dire? On voit comment? Et l'œil du myope, est-ce qu'il a une particularité?
Oui, l'œil du myope, c'est un œil qui est un peu trop long. Mmh. Et de fait, la vision est floue pour les objets qu'on regarde au loin.
D'accord.
En revanche, le myope voit toujours assez bien de près, mais il voit flou de loin.
Julia, vous savez à peu près ce que c'est. Vous étiez myope. Hein,
moi, j'étais super myope. Enfin, on est toujours le myope d'un autre, mais moi, j'avais genre 5. Enfin,
oui, c'est 5
pas,
dioptries.
C'est pas terrible.
Oui,
hein.
Alors avec 5 dioptries, on ne voit pas au-delà de 20-25 cm.
Ah oui, c'est ça. Nette. Ça n'allait pas très bien, effectivement, Julia.
Et maintenant, je vous vois super bien, docteur, parce que je me suis fait opérer. On va en parler tout à l'heure.
Justement. Alors, est-ce que ça se guérit? Ça peut éventuellement, je ne sais pas, se guérir tout seul, la myopie? Est-ce qu'on est myope ou on est NAIT myope? Enfin, comment ça se passe?
Alors, on ne peut pas guérir la myopie dans le sens où on ne peut pas raccourcir l'œil. Mais on peut
quand on met des
myopie.
Lunettes chez un enfant, ça va pas rétrécir, enfin raccourcir son œil un peu.
On
non
a des solutions aujourd'hui qui permettent de freiner l'évolution de la myopie, mais on peut pas faire d'un enfant myope un enfant non myope avec des verres de lunettes, des lentilles. Mm-hmm. Malheureusement,
mais on peut éviter que ça s'aggrave en tout cas.
On peut ralentir éventuellement la progression avec ces nouveaux verres, oui. Mm.
Ça c'est génial, mais la myopie on peut corriger, hein. On est d'accord ça avec des lunettes, hein, ou des lentilles.
Lunettes, lentilles et chirurgie.
Et chirurgie, d'accord. Il est possible d'intervenir, mais justement depuis quand on fait ce type d'intervention?
Alors on le fait depuis, on va dire, une trentaine d'années. Mm-hmm. Et vraiment,
tant que ça, c'est incroyable.
Oui. Mm. Il y avait même, il y a plusieurs années encore, des techniques qui étaient un petit peu anciennes, sans le laser.
Artisanales, vous voulez dire peut-être, non?
On va dire plus manuelles qu'elles ne sont aujourd'hui, où on a, grâce au laser, une précision vraiment... qui n'a rien à voir avec les techniques qui précédaient cette révolution
qu'est-ce
technologique.
Qu'est-ce qu'on faisait avant le laser? Bon, par curiosité, on va dire, même si on
faisait manuellement des petites incisions.
Il prend un marteau et un burin, Clément Lanneau, il dit, vous inquiétez pas, je faisais ça, moi, il y a quelques années.
C'était un peu plus sophistiqué. Mais on utilisait des micro-bistouris qui faisaient des petites incisions et ça permettait d'aplatir la cornée et c'était beaucoup moins précis, encore une fois, que le laser qui, lui, sculpte la cornée avec une précision de l'ordre du millième de millimètre, c'est-à-dire du micron.
Clément Lanoux.
Ah, moi je suis concerné, je suis myope et je fais partie des gens qui ont peur de franchir le cap justement.
Ça fait déjà deux myopes autour de la table. Ouais. Valérie Romanoff, vous êtes myope aussi, voilà. Bah, trois.
Bon,
bah, vous aussi peut-être Damien Gatinel, parce que
très
vous
légèrement,
avez...
ouais.
Bon, bah quatre myopes sur cinq.
Non,
c'est
je
pas mal.
Suis une ancienne myope moi. Oui, guéri.
Est-ce qu'il y avait à l'époque, je me souviens, on me disait il y a un âge vraiment où il faut pas le faire avant parce que la vue évolue. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est...
Non, c'est tout à fait vrai puisque c'est un œil qui est trop long et qui continue de s'allonger, particulièrement à l'adolescence. Au moment des études supérieures aussi, puisque le fait de travailler beaucoup dans un environnement un peu domestique, en passant peu de temps à l'extérieur, est aujourd'hui considéré comme un facteur de risque d'apparition et d'accélération de la myopie.
Enfin, Clément Lanoux à 37,
vous
je pense que c'est bon,
il peut
se faire opérer.
Je n'ai pas fini mes études, j'apprends chaque jour à mon côté.
Mais c'est la peur qui est le principal obstacle à la décision opératoire. Hein.
Pourquoi il y a 5 myopes là dans ce studio? Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'on devient myope? Parce que ma mère me disait toujours, regarde pas la télé trop près, tu vas devenir myope. Enfin, je ne sais pas si ça existe, tout ça.
Il y a probablement une responsabilité du mode de vie actuel dans l'augmentation assez impressionnante de la prévalence de la myopie dans le monde industrialisé. En Asie, pour donner un ordre d'idée, 95% des adolescents sont myopes.
Ah
c'est
oui.
énorme.
Et pourquoi? Parce qu'ils ont un mode de vie d'écran.
On a bien sûr, particulièrement en Asie, aussi des facteurs génétiques, mais un mode de vie qui, encore une fois, est tourné vers les études, Et
les études, c'est pas si bon que ça, alors. Bah non, ça fait mal aux yeux. C'est ce que me dit mon fils.
Oui. Non, vous pouvez poursuivre vos études sans problème, mais on considère aujourd'hui qu'il est important que les enfants puissent passer du temps à effectuer des activités de plein air, en milieu, en lumière naturelle.
Parce qu'ils vont regarder loin et tout ça, c'est ça.
Ils vont regarder loin, ils vont recevoir plus de lumière naturelle. Mm-hmm. Et ceci a été montré comme un moyen de ralentir l'évolution ou de prévenir l'apparition de la myopie.
Donc pour prévenir la myopie, en gros, tous dehors, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut retenir.
Et pas trop d'écran, quand même.
Et pas trop d'écran, malheureusement.
Oui, pour un tas de raisons.
C'est pas facile.
Non, c'est pas simple. Il y a combien d'interventions chaque année en France d'opérations de myopie ? Vous, par exemple, vous en faites combien par an ?
Environ, un peu plus de, entre 1000 et 1500. Et en France, c'est environ 100 à 150 000, je crois.
Ça augmente ?
Alors, ça a beaucoup augmenté avec la pandémie, parce que les gens avaient le temps de venir en consultation. La buée sur les lunettes à cause des masques a posé beaucoup de problèmes à la population.
Et tout le monde a eu envie de se faire opérer.
Oui, les gens ont eu le temps, puis ils se sont un peu recentrés sur eux-mêmes, effectivement. Ils avaient moins de budget aussi. Enfin, plus de budget pour ça, moins, puisque les voyages, les loisirs étaient très contraints. Mmh. Donc, ça a permis.
Mais ça coûte un œil.
On verra, on va voir ça après. Non.
Oui, il vaut mieux faire les deux. Merci, docteur Gatinel. On reste encore ensemble. Dans un instant, on passe donc à la pratique. Tous les myopes, même les plus sévères, sont-ils éligibles à ce type d'intervention ? Y a-t-il des contre-indications ? Et enfin, à quel âge peut-on se faire opérer ? Faut-il, par exemple, attendre d'être adulte ? On en a déjà un peu parlé. On vous dira tout sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie au sens large. Mais là, tout de suite, on prend soin de votre santé visuelle. Demain, ce sera la journée mondiale de la vue. Du coup, on a choisi de parler de myopie aujourd'hui, l'un des troubles de la vision les plus fréquents. Enfin, il me semble, docteur Gatinel, vous êtes notre invité. Vous êtes chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. C'est bien ce que je dis, c'est le trouble visuel le plus fréquent. Certains parlent même d'épidémie. Donc, en France, c'est le cas aussi. On est plus myope que, je sais pas, astigmate ou autre chose.
Oui, c'est le trouble visuel le plus fréquent, bien qu'après 40-45 ans, on est aussi presbyte.
Ouais.
Et on a donc en ophtalmologie toujours nos patients à un certain âge de leur vie en consultation.
La presbytie, c'est le vieillissement de l'œil. Ça, on y passera tous a priori à la presbytie. Voilà, alors que myope, on peut naître myope, mais presbyte, on le devient à partir de.
On le devient à partir de 40-45 ans.
Et c'est la vision de près, là, c'est ça. C'est quand ils mettent les loupes pour lire les journaux, hein, c'est ça.
Mais les myopes ont parfois la possibilité, en retirant leurs lunettes, de compenser leur presbytie.
D'accord. Ah, oui. Alors, je vais parler pour Clément Lanoux, parce que Clément Lanoux, il hésite à se faire.
Il est resté avec nous d'ailleurs.
Moi, je suis resté, j'ai 37 ans.
Vous restez jamais jusqu'au dossier santé, mais là, myopie, vous êtes dit, bon, on va voir si je peux me faire opérer.
Voilà, tout à fait.
Alors Clément, écoutez-moi bien, parce qu'on va, passer à la pratique. Oui. Alors, par exemple, si Clément Lanoux, il veut se faire opérer, comment ça se passe ?
Vous allez être notre cobaye aujourd'hui.
Oui, voilà.
Plaisir, si je vois bien en sortant.
Il va faire une première consultation, j'imagine, avec l'ophtalmo. À ce moment-là, vous regardez quoi ? Est-ce qu'il faut qu'il soit très myope ou pas forcément ? Comment ça se passe ?
Allongez-vous, Clément, allongez-vous. Voilà, c'est ça.
Non, il va rester assis, Clément, parce qu'on va d'abord le mesurer sa correction, donc déterminer le degré de myopie. Ensuite, on va effectuer des examens qui visent à apprécier la cornée, sa courbure, son épaisseur, pour vérifier et confirmer votre éligibilité à la chirurgie. Mmh. Et une fois qu'on vous aura donc confirmé cette éligibilité et expliqué les grandes lignes de l'intervention, vous pourrez directement procéder à celle-ci, enfin après un petit délai de réflexion bien évidemment. Mmh. Et l'opération aura lieu sous anesthésie locale.
Il est myope à 2,75. Est-ce que ça, par exemple, c'est suffisant pour se faire opérer ?
Tout à fait.
Il n'y a pas de myopie à avoir, enfin un niveau de myopie pour y aller ?
La myopie est très vite source d'une gêne visuelle, même pour des petites myopies de l'ordre d'une dioptrie. Et au-delà d'un certain degré de myopie, évidemment, on ne va pas pouvoir opérer tous les patients, ou en tout cas, on va devoir parfois renoncer au laser et recourir à la pose d'un implant.
D'accord.
Donc c'est une appréciation qui se fait au cas par cas.
Mais pour les petites myopies, il peut y aller, quoi.
Pour les petites myopies, le laser fonctionne dans la quasi-majorité des cas à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication.
Alors vous dites l'opération au laser, en fait il y a plusieurs opérations possibles, même trois je crois, mais leur principe c'est toujours le même, hein, c'est sculpter la cornée, mais comment vous allez choisir avec Clément justement, lequel des trois lasers peut-être vous allez utiliser ?
Tout à fait. On va regarder l'œil dans sa globalité, la surface oculaire, le degré de sécheresse éventuellement, l'épaisseur de la cornée qui est assez importante et la régularité de la cornée. Et en fonction de ces paramètres, on va orienter le patient vers du laser de surface, qu'on appelle PKR, ou du LASIK, ou encore une autre technique qui s'appelle le SMILE.
Bon, d'accord. C'est les trois méthodes de laser qui existent aujourd'hui. Clément, vous avez un choix peut-être pour un des trois lasers.
J'ai une question très simple, hein, parce que je suis du coup le principal concerné. Ça fait mal.
Ils sont douillés, hein, c'est pas possible. C'est jamais, Julien, ça n'a pas posé la question.
En fonction des techniques, en fait, pendant non et après non, avec la plupart des techniques qu'on réalise, il y a une technique qui, en revanche, peut être source de douleur en post-opératoire, c'est le laser de surface. Mais on atténue ces douleurs avec des antalgiques et c'est un petit moment à passer de 24 heures.
Mais ça fait moins mal qu'un accouchement, voilà. Vous inquiétez pas.
Je n'en doute pas.
Mais la technique la plus fréquemment réalisée, le LASIK, permet aux patients donc de ne pas souffrir en post-opératoire et de retourner au travail parfois dès le lendemain.
Vous nous avez convaincu, le Clément Lanoux, il a décidé de faire son intervention. Donc on est le jour J, on passe au bloc avec vous, docteur, et avec Clément. Cette intervention de la myopie, déjà, elle va se pratiquer où ? En cabinet ou c'est dans un bloc opératoire ?
Non, dans un bloc opératoire dédié où seront donc placés les lasers. Et Clément va s'allonger sur un lit d'opération.
Mm-hmm. On le déshabille, tout ça. Non, mais
c'est vrai. Je viens directement nu, si vous voulez.
Non, il n'y a pas besoin. On vous donnera peut-être un petit pyjama.
Évidemment, le style est important, j'imagine.
À placer par-dessus vos vêtements. Une petite charlotte, c'est-à-dire un petit bonnet pour, évidemment, isoler les cheveux.
Vous l'endormez ou pas ?
Peut-être la barbe aussi de Clément, il faudra peut-être faire quelque chose.
Vous l'endormez ou pas entièrement ?
Pas du tout.
Ou...
Non, on endort les yeux, les cornets avec des gouttes.
Ça veut dire qu'il ne voit pas, il ne vous voit pas approcher le laser de son œil ? Si, il va vous voir.
C'est tellement près qu'on voit, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et de toute façon, ce que les patients font en général, c'est ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de regarder, de pas bouger, de regarder dans une direction donnée. C'est pas compliqué.
Ouais. Mais le problème, c'est que comme pour les enfants, hein, quand nous, les grands, on nous dit ne bouge pas, c'est là qu'on a terriblement envie de bouger. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si Clément il remue un peu la moustache et qu'il bouge un peu ou enfin c'est
fois,
grave, il peut être aveugle.
Alors encore une fois, toutes ces choses sont bien sûr anticipées grâce à une ergonomie particulière de la salle d'opération. Le lit est très confortable, il y a une petite tétière, c'est-à-dire un endroit qui permet de bien placer la tête pour qu'elle ne bouge pas.
Okay. Ce serait bien, hein, ça a l'air sympa.
J'ai l'impression d'être en première dans un avion.
C'est ça, on est allongé comme en première. Et ensuite, le moment le plus désagréable peut-être pour le patient, c'est quand on place un petit écarteur qui empêche de cligner, ça fait peur au patient.
Vous savez, comme dans 2001, non, c'était quoi ?
Orange mécanique. Ouais. Exactement. Mais cet écarteur, en fait, n'est pas douloureux et permet de, justement, ne pas avoir la peur de cligner et donc à l'intervention de se dérouler tout à fait normalement.
Mais il y a quand même des patients, j'imagine, docteur, qui paniquent à l'idée qu'on leur touche l'œil au laser. Non, c'est bizarre quand même.
Encore une fois, effectivement, c'est une opération qui est source d'appréhension, mais
une séance d'hypnose dans les oreilles, ça peut détendre, non ?
Il y a des patients qui me demandent s'ils peuvent être opérés en écoutant leur musique, et ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où ils entendent quand même les quelques commandes qu'on va leur prodiguer...
Et que c'est de la bonne musique, quoi, parce que quand même, c'est dans votre bloc.
Des
quoi.
Fois, ça dépend ce que vous appelez la bonne musique, mais des fois, j'entends...
Clément Lanoux n'a pas encore fait le chèque, mais justement, il y a encore une question avant de faire le chèque.
Oui, alors avant de savoir justement combien ça coûte, on a dit 24 heures pour s'en remettre. L'opération en elle-même, c'est combien de temps ?
La durée de l'opération, c'est 10 minutes par œil. Et les temps de laser sont eux-mêmes de quelques dizaines de secondes.
Ok.
C'est beaucoup de préparation, on explique au patient là où il doit regarder, et les temps d'action sont assez brefs.
Oui, donc 10 par œil, 20 minutes en tout, quoi, au bloc,
c'est
ça, pas
plus.
Oui,
c'est très reproductif, c'est très robotisé, encore une fois, aujourd'hui, c'est très sécurisé, et les bons candidats font les bons résultats. En fait, l'étape la plus discriminante pour l'intervention, c'est la consultation préopératoire qui, en général, donc si on élimine les mauvais candidats, permet... d'assurer des suites tout à fait favorables.
Et des bons résultats, quoi,
surtout. Et de très bons résultats, oui.
Qu'est-ce qui se passe, justement, après le bloc ? Donc là, Clément a fait ses 20 minutes, hein, ça y est, vous lui avez, j'allais dire, découpé la cornée, non, sculpté la cornée.
Avec une précision inégalée, la cornée.
Voilà, exactement. Et donc, il sort, est-ce qu'il voit bien tout de suite, là, en sortant de votre bloc, ou est-ce qu'il peut rentrer chez lui, d'ailleurs, tout de suite, ou comment ça se passe ?
Pas tout seul. Ouais. Soit en taxi.
On vous accompagnera,
Clément. Parce qu'en moto, je vais éviter, je vais confondre les stops et les sens interdits, c'est la même couleur.
On voit juste après. Alors on voit un peu flou parce que les gens larmoient légèrement, mais ils voient, ils peuvent se déplacer, déambuler.
Porter des lunettes, hein, je crois, de soleil en tout cas.
On donne des lunettes de soleil pour reposer un peu la vision, et puis des petites coques en plastique qu'il faudra porter la première nuit pour éviter de se frotter les yeux.
Ça ressemble à des lunettes de piscine un peu, hein, c'est ça, hein, non, les coques
des,
là.
Ou des petites coques en plastique transparent qu'on scotche avant de dormir et
c'est
qu'on
assez sexy,
le matin.
Hein, Clément, vous verrez.
Je vais découvrir.
C'est pas mal d'ailleurs de faire cette opération l'après-midi, comme ça après on va dormir. Hein, et le lendemain. Et le lendemain on se réveille, et moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai enfin vu. J'ai vu dès le lendemain. Est-ce que c'est normal aussi vite?
Ah oui, 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 c'est le cas de la plupart des opérés.
Et ils jettent leurs lunettes, quoi. Ils n'en ont plus jamais besoin.
Ils jettent leurs lunettes ou ils les offrent pour qu'on puisse les reconditionner éventuellement.
Mais ça revient pas, on redevient pas myope?
Alors, on peut redevenir myope dans quelques situations qui concernent en général des gens opérés très jeunes pour des raisons de carrière professionnelle, pour pouvoir être pompier, gendarme. Il y a des patients qui sont opérés dès l'âge de 18 ans, qui est l'âge minimum légal pour faire l'opération, sauf exception. Et si la myopie progresse, ce qui est aussi très avantageux, c'est qu'on peut réopérer les patients au moins une fois, voire parfois deux fois, pour ajuster la vision en cas de récidive de la myopie ou de changement de la correction.
C'est bon, il a sorti le carnet de chèques.
Justement, voilà, de combien il fait le chèque? Ça se coûte en moyenne, parce que bien sûr, j'imagine qu'il y a des différences entre Paris, parfois, la province.
Voilà.
La moyenne, c'est combien pour se faire opérer les deux yeux, hein?
C'est autour de 3 000 euros pour les deux yeux.
D'accord. Est-ce qu'il y a une prise en charge par la sécurité sociale, je crois, mais si?
Là, non, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles proposent un forfait. Parce que elles considèrent, ces mutuelles, qu'elles vont rentrer dans leurs frais, étant donné qu'une fois opéré, on n'a plus besoin d'acheter des lunettes ou des lentilles, et le patient aussi va amortir son intervention assez rapidement.
Et ça peut aller jusqu'à 1 000 euros, hein, de prise en charge par les mutuelles, je crois.
Ça peut aller jusqu'à 1 000 euros,
oui. C'est ça. Et donc, on n'a plus jamais besoin de venir voir l'ophtalmo. Ça, non, attention.
Ah non.
Ah, voilà.
Ah non, parce que si l'œil n'est plus myope optiquement, il le demeure anatomiquement, dirons-nous, et ça impose un contrôle annuel pour vérifier en particulier la pression, la tension de l'œil et la rétine, donc un examen du fond d'œil.
Bon, en tout cas, on jette les lunettes. Merci beaucoup, docteur Gatinel, de nous avoir accompagnés ce matin. S'il y a des myopes qui nous écoutent, et il y en a forcément, vu le nombre de myopes en France, on l'a dit, au moins ils ont toutes les infos, comme Clément Lanoux, pour franchir le pas. Vous allez le faire?
C'est fait, j'ai lancé une cagnotte litchi sur les réseaux de l'émission et je me lance dès la semaine prochaine.
Très bien, on suivra ça de près. Merci encore, docteur.
Oui, merci à vous, docteur Mélanie. Je crois qu'il est temps de passer à notre séquence tendance et de laisser entrer dans ce studio nos trois chroniqueurs du jour. Le premier aujourd'hui à prendre la parole, ce sera le chef Grégory Quiron, champion du monde de l'œuf en meurette depuis quelques jours, et on le félicite. Il va nous donner ses meilleurs conseils pour les réaliser chez nous aussi, ses œufs savoureux. Et puis Sophie Braffman, notre chroniqueuse mode, va nous raconter ce qu'est vraiment la mode en politique. Et enfin, Nathalie Le Breton va nous donner ses meilleurs conseils lecture pour nos enfants, pour les aider à affronter leurs peurs. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1,
11h30.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle le mieux vivre est central pour nous dans tout notre magazine jusqu'à 12h30. On va donc lancer notre table des tendances. Et le premier de nos chroniqueurs aujourd'hui, ce sera un champion du monde. Excusez-nous du peu, on est super fiers. Bonjour chef Grégory Quiron, vous êtes champion de quoi alors au juste?
Bonjour, eh bien je suis champion d'œuf en meurette.
Nous on est champion de rien du tout, championne de rien du tout, donc c'est super. C'était dimanche, je crois, la compétition.
Tout à fait.
Après, pas la première fois que vous...
Troisième participation.
Ouais, mais vous avez gagné, c'est la classe. Franchement, on va vous piquer tous vos secrets avec Julia. Peut-être on sera candidate, nous aussi, pour le titre de championne du monde d'ici une ou deux décennies, qui sait. Ensuite, ce sera à votre tour, Sophie Braffman, notre spécialiste mode. Je crois que vous allez nous parler de politique, c'est étonnant, en mode. Mais par exemple, notre président de la République, Emmanuel Macron, il est bien habillé, selon vous?
Oh, il est quand même plutôt pas mal habillé. Il est bel homme, même, je dirais.
Ouais,
alors, qu'est-ce que vous arrive, Sophie? Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est spontané. Et sa femme est très bien habillée aussi.
Brigitte est très bien habillée.
Par des créateurs français, d'ailleurs. Et vous allez voir qu'en politique, l'habit fait le moine, enfin la ministre plutôt, je dirais.
Ah, génial, on a hâte. Et puis enfin, on va terminer cette séquence tendance avec vos conseils lecture. Bonjour Nathalie Le Breton.
Bonjour.
Des conseils lecture pour soigner les peurs de nos enfants, c'est bien ça?
Eh oui, au secours, SOS, mon enfant a peur. Et quand ça devient un peu trop prégnant, bah, c'est un petit peu dur. On va les accompagner, ça va aller mieux.
Oh, chouette. Merci Nathalie, on vous retrouve dans un instant. Tout de suite, il est temps de déguster dans Bienfait pour vous. Allez tous à table.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Eh bien voilà, on va donc démarrer comme tous les jours à midi avec la chronique gastronomie de l'émission. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir un nouveau chef. C'est vous, Grégory Cuilleron. Et donc,
c'est Cuilleron ou Cuilleron ?
Je crois que c'est Cuilleron, mais vous n'avez pas trop contredire Julien.
Mais non, je suis désolée, Cuilleron, pardon.
Aucun problème. Il se trouve que c'est la partie bombée de la cuillère.
Ah voilà, Cuilleron, vous étiez destiné à
faire de la cuisine.
À faire de la cuisine. Alors que Vignali, par exemple, j'étais destiné à rien du tout.
Du BTP, éventuellement.
Oui, éventuellement. Gomez,
on pourrait monter une entreprise, ce plaidot.
Et donc, ce matin, vous allez à la recherche, à la découverte plutôt d'un plat traditionnel de la cuisine bourguignonne, les œufs en meurette. C'est bien ça ?
Tout à fait. Alors, je tiens à préciser que c'est pas parce que je l'ai gagné que je fais une chronique là-dessus. J'avais prévu de le faire avant.
Je confirme. Vous nous aviez donné ce sujet-là avant même de savoir que vous seriez champion du monde, quand
exactement.
Même.
Exactement. Je n'ai toujours pas reçu de coup de fil du président Macron, mais j'attends avec impatience. C'est d'aventure, vous avez des contacts.
Oui, bien sûr.
Donc, ce week-end, c'était la journée mondiale de l'œuf. Et à cette occasion, au Clos Vougeot, qui est le siège des chevaliers du Tas de Vin, qui promeut les bons vins de Bourgogne, se sont tenus les championnats du monde d'œuf en meurette. Alors, il y avait un concours amateur le samedi et un concours professionnel le dimanche, avec un jury d'exception, présidé par Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée, et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui est friand de sommet. C'est très drôle.
C'est la classe internationale, je trouve.
Ça m'a fait des photos de profil sur Facebook pour jusqu'à plus soif.
Et donc, Grégory, vous avez été sacré champion du monde avec votre recette de l'œuf en meurette, hein, c'est bien ça ?
C'est bien cela. Donc, l'œuf en meurette, je vais vous expliquer quand même un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un œuf poché dans du vin rouge ou de l'eau vinaigrée.
Mm-hmm. Vin rouge, on préfère.
Vin rouge, c'est mieux, ouais, puis c'est une couleur plus jolie. Alors moi, ce que je fais, c'est que le vin, je le flambe avant pour que ça n'ait pas trop le goût d'alcool. Et puis, c'est servi avec une sauce à base donc de vin rouge, d'échalotes, de champignons et de lardons. Grosso modo, c'est la sauce du bœuf bourguignon qu'on réutilise.
C'est génial.
Mais dans ce cas précis, on n'attend pas de faire un bœuf bourguignon.
Bah non, bien sûr. Et ça vient d'où tout ça ?
Alors, ça vient d'où ? Ça, c'est l'histoire de l'œuf en meurette. Il y a deux écoles. La première, ça viendrait du latin muria, qui est une préparation saline dans laquelle on cuit des aliments.
D'accord.
Alors,
bon.
C'est en partie vrai. Mais moi, j'ai une pote, Clémentine Barbier, qui était au concours, qui me dit que son arrière-arrière-grand-oncle, donc on se raccroche un peu aux branches de l'arbre généalogique, aurait inventé cette recette. Donc, il s'appelait Nicolas Meuret. Il était cuisinier, fils de vigneron.
C'est pas impossible, quand même.
Oui, moi, je dis, c'est fort probable. Ouais. Alors, j'ai pas retrouvé sur Internet, mais on trouve pas tout sur Internet. Il est parti en Angleterre, ça s'invente pas. Là-bas, il passe un concours. Il sert un œuf poché avec une sauce au vin rouge, aux champignons.
Nicolas Meuret, il était de Bourgogne.
Bien
quand même.
Sûr, ah, oui, il était bourguignon. Ouais. Il gagne le concours et là, on appelle son œuf l'œuf Meuret.
Meuret, c'est encore plus chic.
Tout viendrait de là.
C'est clair.
Donc, je vous ai fait un petit bilan.
La meurette, ok.
Voilà, sur la meurette. On va peut-être passer à la recette.
Ouais, ah oui, c'est s'il ça vous plaît, parce que si on va en faire un à la maison, c'est possible, ça, c'est facile ou pas ?
Bien évidemment. Alors,
votre recette à vous, elle doit taper, mais vraiment dans le top niveau. Mais un truc, en tout cas, qu'on soit capable, nous, de reproduire chez nous. C'est ça qu'on veut. Alors, hein, on ne demande pas forcément les secrets du champion du monde, on n'oserait pas.
Les secrets, vous pouvez les avoir, je les publierai. Mais le problème, c'est que.
À votre mort, bien sûr.
Non, il n'y a pas de secret en cuisine. C'est que ma sauce, ça a duré 8 jours pour la faire.
Non, c'est un peu trop long.
Et puis surtout, on a faim et on veut manger dans 5 minutes.
Est-ce que vous avez un truc qui est faisable en 8 minutes ? On va dire 8 minutes.
Pas 8 minutes, mais je vous ai fait un truc simple.
Alors, vas-y.
Alors, donc pour la sauce, je reprends mes notes. Parce que bien la sûr. Quantité, vous savez, 1 litre de vin rouge, si possible du pinot noir.
Bien sûr.
Voilà. 100 g d'échalotes, 30 g de beurre, 30 centilitres de fond de veau. Alors, si on n'a pas son fond de veau perso, ce qui est plutôt rare, on prend de la poudre, c'est pas grave.
C'est ce que j'ai chez moi, de la pomme poudre.
Magnifique. Ça peut prêter à confusion.
Non.
100 g de poitrine fumée, 100 g de champignons de Paris, une carotte, une feuille de laurier, 2 gousses d'ail. Et par ailleurs, il nous faut 4 gros œufs, 4 tranches de pain assez fine, une gousse d'ail supplémentaire et 20 g de beurre fondu. Donc, la préparation de la sauce.
Alors, on y va.
On porte à ébullition le vin rouge et la carotte coupée en rondelles.
On met tout le litre de vin.
Ainsi que les échalotes.
Tout.
On met le litre.
On y va.
Ainsi que les échalotes. D'accord. Alors, attention, une bouteille de vin ne fait que 75 centilitres.
Donc, il en faut deux. Ah, dommage, il faudra continuer à la boire.
Ça fera pour le repas.
Avec modération.
Avec modération, bien évidemment. On met le feu.
D'accord.
Une fois que ça a arrêté de flamber, on va rajouter la feuille de laurier.
Okay.
Par ailleurs, on émince les champignons, le lard, on écrase les gousses d'ail, on les fait revenir d'une cocotte avec 15 g de beurre, on mouille, c'est-à-dire qu'on rajoute le liquide, donc le fond et le vin rouge réduit, on ajoute le laurier,
On laisse un petit peu réduire. Je crois qu'on m'a volé la fin de ma recette, mais c'est pas grave.
Du
je
tiers,
la connais bien.
Du tiers à feu doux.
Voilà, on laisse réduire du tiers à feu doux. On va dire que je connais plus pas mes recettes après. Merci
mais
beaucoup.
On rajoute du beurre.
À la fin, on rajoute une noix de beurre en battant bien pour donner un petit peu de brillance.
D'accord.
Par ailleurs, les croutons, on prend nos tranches avec notre beurre fondu dans lequel on a fait infuser l'ail. Clac, 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 on tartine. On met ça au four, si possible, entre deux plaques pour que ça reste bien fin.
Ça va
bien
droit.
Oh, ça c'est 10, 15, 20 minutes sur la puissance du four à 180 degrés.
D'accord. Donc là, les croutons vont se faire tout seuls, hein, voilà.
Oui, voilà, ils vivent leur vie, on peut faire ça pendant le reste. Et enfin, on va faire l'œuf poché, donc on prend soit notre vin rouge, soit notre flotte.
Non, mais j'étais en train de regarder, je me suis levée, je voulais savoir si vous en aviez en plateau. Mais non,
malheureusement non, parce que pour tout vous dire, je suis le chroniqueur au pire bilan carbone du monde, je viens de Lyon. Ah. Donc j'ai pas pu prendre. Je vous amènerai des trucs à manger la prochaine fois, c'est promis.
Donc on met un litre d'eau.
D'eau vinaigrée ou de vin, on prend son fouet, on bat. On verse, alors on casse l'œuf dans un ramequin, on va verser celui-ci dans l'œil.
C'est un peu technique, l'œuf poché, mais bon, j'ai essayé, la première fois j'ai tout raté, après j'ai réussi.
Les deux premières sessions, j'en pétais un sur deux. Voilà. Là, je me suis dit, ça suffit, mon garçon, j'ai acheté 40 œufs, tous les soirs, je m'en faisais 10. Maintenant, je vais mettre. On verse ça dedans, on laisse cuire 2 minutes 30 à frémissement, on sort, on est bien, on verse la sauce, on met le crouton et on mange.
Voilà, c'est prêt. Franchement, c'est une petite question rapide, Nathalie, allez-y. Oui.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un premier champion du monde et puis les autres? C'était quoi ton truc?
Alors, je pense que, avant tout, la simplicité. Il y a que des œufs simples qui ont gagné ces trois dernières années. Et puis, c'est la qualité de la sauce.
Ouais, oui. 8 heures, là, quand même.
8 heures, et puis moi, je mets du paleron. Enfin, je fais des trucs un peu différents.
On va rester sur le basique pour nous. Ça suffit largement, je pense, Nathalie.
Merci, franchement.
Merci, Grégory, pour tous ces conseils, ces astuces.
Plaisir.
Les œufs en meurette n'ont quasi plus aucun secret pour nous et nos auditeurs. D'ailleurs, on n'a plus qu'à se mettre au fourneau. Mais restez avec nous, Grégory, car le décryptage de la mode, de l'habit politique façon Sophie Braffman devrait vous plaire. Et puis, il y aura aussi les conseils lecture de Nathalie Le Breton avec des livres qui soignent pour nos enfants, des livres qui les aident à affronter leurs peurs. Tout ça, c'est sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec nos trois chroniqueurs du jour toujours autour de la table avec nous. On sait donc d'ores et déjà ce qu'il y a à savoir pour réussir. On sait ce qu'il y a à savoir pour réussir les ormerettes. Hein. D'ailleurs, la recette de notre chef Grégory Cuilleron va être tout de suite mise en ligne dans quelques minutes sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Sophie Braffman, vous l'avez noté, donc pas besoin d'aller sur le site. Hein. Je suis sûre d'ailleurs, Sophie, que les hommes politiques, ils adorent les ormerettes. Ça, j'en suis persuadée.
Je pense, mais peut-être qu'ils mettent un symbole derrière. L'œuf en meurette. Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain glissant, je ne sais pas lequel. Mais
donc, ils ont du goût en cuisine, on va dire, mais est-ce qu'ils ont du goût au niveau vestimentaire?
Alors, c'est ça qu'on veut savoir. C'est de ça dont on va parler, parce que vous allez voir à quel point l'habit est essentiel en politique. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit récapitulatif et je tenais à le préciser. La mode est bien moins futile qu'il n'y paraît, puisque le secteur de la mode et de la mode et du prêt-à-porter représente davantage en chiffre d'affaires global que l'aéronautique et l'automobile.
Je pense
que c'est important de le dire, parce que c'est quand même vachement plus sympa de bosser sur un défilé que sur le salon de l'auto. Donc, il va falloir à un moment donné, voilà, qu'on sache que finalement ce n'est pas si futile que ça. D'ailleurs, deux journalistes en 2016 s'étaient intéressées au sujet. Elles avaient sorti un livre intitulé « Le vestiaire des politiques » où justement on exprimait à quel point on scrutait les hommes et les femmes politiques et d'autant plus les femmes. Vous allez rapidement le comprendre. De toute façon, être une femme en politique, c'est loin d'être évident. Certains ont même du mal avec la féminisation des termes. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale jeudi dernier, c'était le 7 octobre où le député Julien Aubert ne cessait de dire « Madame le ministre » à Barbara Pompili.
Je demande de manière très claire à être appelée Madame la Ministre. Si Monsieur le député ne respecte pas cela, il sera appelé Monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité.
Non, Madame la Ministre. Donc, comme vous l'entendez, les filles et monsieur, bien sûr, en politique, être une femme est loin d'être une mince affaire. Alors, quand je vous disais qu'on regarde les tenues, on se souvient toutes, bien sûr, et tous, des crocs fluo de Roselyne sur le perron de l'Elysée, particulièrement moche, mais aujourd'hui, le moche étant le nouveau beau, finalement, Roselyne avait un temps d'avance.
Avant tout le monde.
Exactement. Jack Lang avec son fameux col Mao, où là, on était sur une expression très claire, d'une gauche populaire, voire caviar, voire mojito. Une gauche détendue. Enfin, Marine Le Pen qui prend à cœur d'adopter des codes vestimentaires des classes populaires pour faire oublier ses origines bourgeoises avec une forte appétence pour les couleurs du drapeau, du marine, du blanc et même des escarpins rouges. Et chez elle, on est très loin d'une paire de Louboutins.
Ah, génial. Mais donc, ça veut dire que le message envoyé dans la tenue est avant tout politique. C'est bien ça, Sophie.
Complètement.
Mais est-ce qu'il est toujours sexiste quand on évoque la tenue d'une femme?
Vous pensez certainement à Cécile Duflot.
Bah
il
oui.
est sexiste. Alors là, je voudrais aussi revenir dessus. Cette fameuse robe à fleurs qui a suscité des huées, c'était le 12 juillet 2012 à l'Assemblée nationale.
Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement.
Monsieur le Président.
Allez, écoutez.
Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
C'est dingue.
C'était complètement dingue. Alors, vous me direz, c'était il y a 8 ans. Il est vrai que les choses ont quand même changé depuis. Même si récemment, hein, le député RN Julien Odoul s'est permis à l'égard de Florence Portelli de lui dire « Non, mais je suis pas une blonde. » Au RN, on fait des blagues hyper sympathiques et qui sont pas du tout ringardes. Des blagues de vieux tonton. Je lui conseille de prendre quelques cours chez Jean-Marie Bigard qui est en pleine forme en ce moment. Donc, du côté des blagues sexistes et ringardes, ça s'est malgré tout amélioré et ça a évolué. Je vous parlais de l'industrie de la mode. Je me suis donc rendue à Bercy dans le bureau d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, à Bercy où on a le sens du détail quand on parle style.
Bruno Le Maire est un extraordinaire ministre de tutelle, mais c'est aussi un esthète. Et c'est un homme qui a le sens du détail. Et Bruno, qui est un grand politique, a toujours le regard sur la couleur d'un vernis à ongles, la couleur d'une paire de pompes, la couleur d'une cravate assortie. C'est un homme très élégant.
Incroyable. De l'élégance avant toute chose, nous disait Olivia. Voilà ce qui fait le sel d'une tenue politique. D'ailleurs, Olivia est née dans la mode, hein, d'une mère mannequin chez Cardin et d'une grand-mère première d'atelier chez Chanel. Elle cite donc volonté sa grand-mère en disant que l'élégance est une sorte de politesse. Elle cultive cette élégance dans des tenues accessibles, car l'élégance ne nécessite pas forcément d'argent.
Donc aujourd'hui, Sophie, on peut être femme féminine en politique sans que cela ne suscite de débat.
Alors, c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle-même oserait mettre cette fameuse robe à fleurs portée par Cécile Duflot et pense qu'il n'y aurait plus de sujet. Bien sûr, comme on l'a vu, il y aura toujours des gens un peu bas de plafond, hein, comme on le dit, pour lesquels les choses n'ont toujours pas changé. Mais on serait presque aujourd'hui passé d'une extrême à une autre.
Moi qui ai été députée pendant plus de 3 ans et demi, jamais. Je n'ai eu affaire à une réflexion machiste, sexiste ou déplacée à l'endroit d'un pull en V un peu décolleté ou à l'endroit d'une jupe au-dessus du genou. Mais on est presque passé à l'excès inverse, c'est-à-dire que quand vous êtes une femme aujourd'hui un peu apprêtée, que vous mettez une jolie robe, les hommes très bien élevés qui ont juste envie de vous dire « ça vous va bien » ne savent même plus comment vous le dire. Donc on est passé un peu d'un extrême à l'autre et j'espère que dans les années qui viennent, les hommes politiques pourront redire aux femmes quand elles sont jolies et inversement.
Alors Olivia Grégoire va même plus loin dans son message en nous suggérant de rester ce que nous sommes, de ne pas nécessairement nous masculiniser pour affirmer que nous avons un pouvoir. On peut tout à fait exercer de très hautes fonctions en stiletto. On l'écoute.
Je pense que la vraie réflexion aujourd'hui, c'est en termes de personnalité comme en termes d'apparence, de rester femme. Et j'ai toujours en tête cette injonction nietzschéenne, deviens ce que tu es. Devenons ce que nous sommes. Nous sommes des femmes, restons qui nous sommes et continuons à devenir ce que nous sommes.
Des femmes ultra sexy en politique, les filles, ça vous dit ? D'ailleurs, nous, dans ce studio, on est sexy et on assure. Hein, Grégory ?
Oui, merci. Je confirme.
Merci. Il n'avait pas intérêt à dire le contraire, le pauvre.
Il a senti une petite pression, le pauvre. Merci beaucoup, Sophie Braffman, merci pour ce décryptage de ce qu'est la mode version politique, parce qu'effectivement, ça peut faire peur parfois, hein, les goûts de certains. Donc là, on est rassurés, ils ont pour la plupart bon goût. Elle aussi, elle a du goût et un goût même très sûr, surtout pour nous conseiller des livres pour nos enfants. C'est Nathalie Le Breton. Nathalie, alors, la peur du loup, la peur du noir, la peur de l'eau, la peur des chiens, du vide, du bruit, des nouveautés. Certains enfants se focalisent et d'autres ont peur de tout. On a beau se dire qu'avoir peur, ça permet de se protéger des dangers. On aimerait bien les aider à dépasser ces peurs. Et pour ça, heureusement, vous êtes venue dans votre mallette avec des livres et une belle sélection, je crois.
Oui, et vous avez raison, la peur, c'est utile. Ça permet à l'enfant de grandir et d'être un peu prudent. Là où c'est embêtant, c'est quand la peur prend le dessus, les empêche de respirer, les empêche de vivre, les empêche d'être des enfants. Ce qui est intéressant avec les livres, c'est qu'ils ont des illustrations. Et donc, d'un seul coup, on va pouvoir matérialiser cette peur. C'est pour ça que je vous ai choisi « Ma peur et moi ». C'est sorti aux éditions du Ricochet, un livre de Francesca Sana. Et c'est drôlement bien parce que vous voyez, cette peur, elle est pas effrayante. Ça ressemble au départ à un petit doudou, une petite peluche. Sauf que quand les conditions de vie changent, eh bien, cette peluche grossit. Cette petite fille n'arrive pas à vivre à l'école, à rencontrer les autres, jusqu'au moment où elle va rencontrer un autre enfant très timide qui est très très peur des chiens, et elle se rend compte que lui aussi, il a une peluche qui s'appelle Peur. Et ben ensemble, on a un petit peu peur. C'est ce que nous dit cette très belle histoire.
Bon, et puis il y a la peur de s'endormir, la peur du noir. On a beau passer par les rituels, la berceuse, le livre qui écrabouille les peurs, la petite veilleuse, quand ils grandissent et qu'ils ont des cauchemars, ça se corse.
Alors oui, ça se corse. Les cauchemars, tous les enfants en ont plus ou moins à partir de 4-5 ans. C'est des histoires d'Oedipe, etc. Bref, peu importe, on est bien embêté quand on est parent. Tous les cauchemars ont peur des bisous. bisou. Parce que le comble des cauchemars, bien sûr, c'est d'être embrassé. Vous savez, quand la maman ou le papa arrive pour faire un bisou à l'enfant, et donc, dans cette famille cauchemar, où ils sont tous plus horribles les uns que les autres, y compris le chien qui s'appelle Terreur, bien sûr, eh bien, il ne faut surtout pas faire et avoir de bisous. Sauf qu'il y a un petit rebelle, le petit cauchemar, lui, il veut ce bisou. Et il va l'obtenir, il va rester près de la maman, il va avoir un bisou. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se transformer en doux rêve. Et donc, évidemment, le père n'est pas du tout content. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es fait embrasser, etc. Et lui demande même pas son avis, il l'embrasse et cette famille de cauchemars devient des bisous. C'est assez important parce qu'on prend le parti inverse, c'est-à-dire on se met à la place des cauchemars. C'est pas drôle d'être un cauchemar.
Et Nathalie, est-ce que, parce que parfois en tant que parent, on a peur justement de leur mettre des images dans la tête avec ces livres, et des... est-ce que c'est pas mal aussi de leur mettre dans la tête des images moins effrayantes pour les enfants?
Oui, en fait, il faut se calmer avec ça. C'est pas les livres pour enfants qui vont créer les peurs. En revanche, ça va matérialiser les choses. Et surtout, ça va faire quoi avec Au secours, j'ai peur, que je vous conseille, qui est sorti chez Actes Sud Junior. Là, on va évoquer des peurs différentes, la peur de l'eau, la peur des tsunamis, etc. Et finalement, évoquer de façon un peu directe la peur de la mort, parce que c'est quand même ce qui est derrière. Mais ce qui va être bien en tant que parent, c'est non pas d'interpréter, d'être là comme un psy, etc., mais c'est juste d'accompagner et de raconter nos propres peurs. Nous aussi, quand on a été enfant, et peut-être encore un petit peu adulte, hein, Sophie, je vois que ça brille dans les yeux, eh bien, on a nos propres peur, mais on a grandi et on a su les dépasser.
Sophie Braffman, ils ont peur de quoi, vos enfants? Les plus petits, en tout cas?
Alors, le tout petit parle pas, donc je ne sais pas encore exactement de quoi il a peur. Et le grand, comme c'est un ado, je pense qu'il a peur de plein de choses, mais ne le dit pas. Mais je trouve ça très intéressant, la façon dont Nathalie en parle, parce que du coup, ça dédramatise les peurs, si on arrive à les exprimer, en tout cas.
Oui, il y a un moment donné où, quand ça devient bien sûr une phobie, une angoisse, c'est-à-dire carrément des enfants qui ne veulent plus aller à l'école du tout, là, bien sûr, on va consulter un psy, celle qui était là tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est important. Là, on parle des peurs en général. Il faut apaiser les choses. Les parents, en général, ils craignent que leur enfant soit nul, qu'il soit toujours à la traîne, en gros, hein, qu'il soit pas un peu machiste, que ce soit une fille ou un garçon. Eh bien, non. Non, il faut
et
pas
on évite le sujet
ça.
Parce qu'on a peur de les ancrer, ces peurs, en fait. Encore plus, on se dit, si on leur parle de leurs peurs, ça va encore plus leur faire peur. Non, vous dites, avec les mots des bouquins, finalement, au contraire, on va ouvrir le sujet.
Et... oui, ils ont besoin des mots. Parle. Parce que très souvent, vous dites, ah, mais pourquoi il a peur du chien? Mais pourquoi t'as peur du chien?
Moi, elle veut que des livres sur les loups, alors qu'elle est terrorisée par le loup. Mais je veux que des bouquins sur le loup quand on va dans une librairie.
Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'elle est déjà en train de grandir. C'est-à-dire qu'elle est fascinée. Fascination, répulsion. Et à partir du moment où l'enfant joue avec ses peur, ce qui est le cas dans ses livres. Au départ, il le prend, il vous écoute, il voit comment vous réagissez. Puis à un moment donné, il va grandir, il va dépasser sa peur et il va en rire. Et c'est ça qui est important. Là, gardez les livres jusqu'au moment où il est capable d'en rire et de vous montrer, t'as vu un peu, j'ai grandi, j'ai
même
peur,
plus peur.
Et donc finalement, le loup, ça focalise plein de choses extrêmement, la dévoration, la fameuse dévoration. Mais les livres sont faits pour jouer avec
et
ses
apprendre,
peurs. Et là, on est sur le bon chemin.
Très bien. Merci beaucoup Nathalie, merci à tous les trois pour ces bons plans, ces conseils mode et culinaires qu'on peut évidemment, c'est le but ici, ramener chez nous pour régaler tout le monde. Voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 11h évidemment. Et Julia, demain, quel sera notre premier sujet du jour?
Eh bien Mélanie, on va s'adresser aux grands-parents ou aux parents qui nous écoutent. Peut-être que vous avez envie d'aider financièrement ou d'une manière ou d'une autre vos enfants ou vos petits-enfants. Mais quelle est la meilleure façon? Comment faire un don par exemple? Les abattements, tout ça. Comment on ne pas désavantager l'un par rapport aux autres? Eh bien on va vous donner le bon mode d'emploi. Ce sera du pratique demain.
Et demain Julia, il y aura de nouveaux sujets tendance, de la santé bien sûr. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou encore sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.